Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Bienvenue à Chiz 94.3, vous écoutez la table ronde littéraire Corop Zone. Très heureux pour cette première édition d'être votre animateur, modérateur de la discussion, Félix-Antoine Audet, qui vous accompagne pour la prochaine heure. Et je suis en compagnie, co-animateur et initiateur du projet de la table ronde littéraire, Michel Germain, gérant du secteur librairie chez Corop Zone. Bonjour Michel.
Allô.
Alors c'est un concept qui va revenir de façon ponctuelle là, chez Chiz 94.3, la table ronde littéraire. Ce sera généralement toi et moi qui vont concentrer les discussions avec des invités à chaque semaine. Parle-nous un peu du concept puis pourquoi tu as voulu amener ça sur les ondes de Chiz.
Ben écoute, je voulais d'abord ouvrir la discussion sur des œuvres littéraires récentes, très récentes. Donc, c'est des œuvres, les trois œuvres qu'on va aborder aujourd'hui ont été publiées dans le dernier mois.
Oui, donc, il y en a qui sont sortis, je pense, quoi, il y a deux jours.
Tout à fait. Donc, ça va nous permettre de parler d'actualité littéraire, mais aussi... aujourd'hui, on a la chance d'avoir un thème commun qui relie les trois œuvres et ça va tourner autour en fait, c'est trois œuvres assez intenses, là, d'une beauté troublante, là, qui abordent d'une manière personnelle et intime le deuil. Donc, on a trois textes aujourd'hui. Moi, je vais vous présenter Dans la lumière de notre ignorance de Marianne Marquis Gravel. Il va ensuite y avoir Quand viendra l'aube de Dominique Fortier, puis pour terminer, Crépuscule admirable, un recueil d'essais de Thomas Mainguy.
Mais évidemment, ce serait un peu plate comme table ronde à juste deux. Des invités à chaque semaine qui t'auront aidé à lire ces œuvres-là, qui pourront en discuter avec toi. On va commencer tout de suite à les introduire. Thierry Béléguic, professeur de littérature à l'Université Laval, qui se spécialise en littérature française du 18e, 20e, 21e siècle, notamment en mémoire, récit de la transmission, ce qui est quand même assez à propos quand on parle de deuil, et aussi de théorie du care, littérature éthique du soin, ce qui rejoint aussi un peu les œuvres dont on va parler aujourd'hui. Monsieur Béléguic, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et il est aussi accompagné de la rédactrice en chef d'Impact Campus, qui est en train de terminer une maîtrise en littérature à l'Université Laval, Émy Lapointe. Bonjour.
Bonjour, Félix.
Alors, on ne perdra pas de temps. On va commencer ça directement, rentrer dans le vif du sujet. On a trois œuvres très récentes. Du côté de toi, de ton côté, Michel Germain, tu nous parles de Dans la lumière de notre ignorance.
Oui, mais comme à mon habitude, j'ai l'habitude de faire beaucoup de digressions. Alors, si tu me permets, je sais que tu vas paniquer quand je vais te dire ça, mais je vais faire un long détour avant d'y arriver.
Vas-y, je te donne la permission. On se laisse aller. C'est la première, c'est le temps de faire nos expérimentations.
Alors, en fait, avant de parler du roman Dans la lumière de notre ignorance de Marianne Marquis-Gravel, puis à un moment de faire un long détour, étant donné que Marianne est la conjointe de l'auteur Simon Roy, Il me semble indispensable de faire une sorte de présentation des œuvres de son conjoint avant d'en arriver au sien. Dans le fond, Simon Roy, c'est qui? C'est l'auteur de quatre romans. Je n'en aborderai que trois pour les besoins de la cause. Là, il a d'abord publié en 2014 Ma vie rouge Kubrick, qui s'intéressait principalement à l'adaptation filmique du roman de Stephen King, The Shining, par le cinéaste Stanley Kubrick. Simon évoquait d'une façon assez originale l'impact de ce film sur sa vie personnelle et professionnelle, là, disant même l'avoir écouté plus d'une quarantaine de fois là, dans l'optique de le montrer et de l'analyser avec ses étudiants. Simon a enseigné 30 ans au niveau collégial, puis l'analyse et les considérations qu'il apporte sur le film étaient aussi l'occasion d'évoquer le drame, en fait, le suicide de sa mère. Donc, le texte avait connu un grand succès, autant public que critique, qui avait remporté du même coup le prix des libraires cette année-là. Je fais ensuite un saut en 2021 avec la parution de son roman intitulé « Fait par un autre ». On y faisait connaissance avec Réal Lessard, là, qui a réellement existé, là, qui avait créé un grand malaise dans le monde de l'art avec son autobiographie intitulée « L'amour du faux », son passage à l'émission Apostrophe là, avec Bernard Pivot en 1988 avait causé tout un émoi avec la révélation de avec cette révélation-là que plus d'un millier d'œuvres d'art de grands maîtres là, comme Picasso, Matisse étaient en fait des faux et dont il était en fait l'auteur. Donc là, Simon Roy s'inspirait entre autres de Orson Welles et de son documentaire F for Fake, que je vous conseille vivement. C'est l'occasion pour Simon Roy de s'interroger sur la notion de vérité, de création, mais aussi sur celle de l'identité. Puis c'est à la fin de ce texte-là qu'on apprend en fait que Simon a reçu un diagnostic de cancer au cerveau, un glioblastome de stade 4 là, qui s'attaque à la zone du langage. Puis il nous raconte aussi qu'il a dû suivre des séances d'orthophonie pour retrouver ses facultés de lecture et d'écriture. Donc, c'était un petit miracle de voir arriver sur les rayons de librairie en mai dernier un autre texte intitulé « Ma fin du monde » qui explorait les thèmes de la maladie, mais aussi de la peur et de la crédulité. Il commence son texte sous le patronage d'Orson Welles, encore une fois, avec l'anecdote de la lecture de la version radiophonique du roman « La guerre des mondes » qui aurait causé des mouvements de panique aux États-Unis en 1938. Certains auditeurs là, ayant cru à une véritable invasion extraterrestre. Donc, pourquoi avoir pris ce long détour-là? Bien, c'est que maintenant, j'en arrive à Marianne Marquis-Gravel, là, qui, dans son texte « Dans la lumière de notre ignorance », nous dévoile d'une façon tantôt douce, tantôt brutale, là, l'impact de cette maladie dans leur relation. C'est une grande et magnifique déclaration d'amour, de solidarité, mais aussi le lieu d'une lucidité, d'une désillusion là, face à un avenir brisé en mille morceaux. Le cancer incurable détruit la vie, mais aussi les rêves là, d'un futur partagé. Donc, rapidement, je dois le dire, j'ai été très touché par ce texte, là, autant par la forme que par le fond. La forme reprend celle des œuvres de Simon, là, des chapitres courts, fourmillant d'anecdotes sur des sujets très divers, sans oublier cinématographique, là, tout en conservant une sensibilité qui lui est propre.
Est-ce que c'est un ouvrage qui est inspiré de leur vie pour en faire une œuvre de fiction ou on parle vraiment du presque autobiographique là, comme récit?
C'est très autobiographique. Okay, donc on rentre vraiment dans leur intimité. On voit les ravages on voit l'arrivée de la maladie. C'est assez troublant. Non? Donc après les premiers mois, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Puis on voit la maladie arriver dans leur couple, puis dans leur histoire de vie, puis c'est assez poignant, là. Je dois t'avouer que j'avais la gorge nouée là, à plusieurs moments, mais c'est un texte lumineux. On va le voir aussi avec les deux autres textes. Il y a beaucoup de clarté dans tout ça. Et je conclurai sur le fait que c'est un très, très, très beau texte. Et je le conseille à tout le monde.
Certainement que si on est dans une intimité aussi brutale, ça doit frapper directement, surtout si on a vécu de près ou de loin, là, comme malheureusement beaucoup trop de gens au Québec. C'est cette réalité-là du cancer, je pense, c'est une qui en affecte beaucoup. Certainement quelque chose qui peut être intéressant. On va poursuivre avec la deuxième œuvre, celle du professeur Thierry Belleguic, qui nous parle de « Quand viendra l'aube » de Dominique Fortier.
Alors, quand viendra l'aube de Dominique Fortier, c'est une œuvre en fait qui se lit bien sûr toute seule, je dirais. C'est un petit texte d'une centaine de pages, mais qui se comprend aussi mieux si la lecture de ce texte a donné envie d'aller plus loin, donc de Dominique Fortier, avec donc Les Villes de Papier, qui est un essai sur la poésie d'Emily Dickinson, qui lui a valu le prix Femina Essai, et puis Les Ombres Blanches, qui est la continuation de sa réflexion en fait sur les pouvoirs de la fiction, en fait le constat à la fois de ce paradoxe de la fragilité de la vie et puis des pouvoirs de la fiction. Alors c'est un texte que je recommande parce que je crois que c'est aussi une émission où on est là pour parler de coup de cœur, mais on est surtout là pour donner envie aux auditeurs de lire. Et ce qui me semble très intéressant avec ce petit livre de Dominique Fortier, on reviendra sur la question du deuil, comme vous le disiez tout à l'heure, mais c'est l'envie, en fait, de laisser de la place au lecteur. Elle écrit ceci. Aurais-je réussi à ménager entre les lignes l'espace nécessaire pour que l'on arrive malgré tout à y déchiffrer ou à y déposer des bribes de sa propre histoire ? Je l'espère, sans trop oser y croire. C'est presque la, la fin du texte. Et elle réussit ce pari, c'est-à-dire avec beaucoup d'humilité, beaucoup de délicatesse. Moi, c'est le premier mot qui m'est venu ce matin lorsque tu disais comment je vais qualifier ce texte. C'est un texte délicat. Délicat parce que il prend soin. Il prend soin des mots, il prend soin de son lecteur, il prend soin des formes à donner aux songes qui affleurent. Elle est alors conviendra à l'aube. L'aube, c'est effectivement ce moment privilégié chez Dominique Fortier où elle laisse advenir l'écriture, les mots, la réminiscence. L'aube, c'est l'aube bleue, et elle a toute une réflexion passionnante sur ce bleu qui serait la couleur du manque, mais qui serait aussi la couleur de la fiction. Ce monde privilégié qu'elle préfère parmi tous les autres habiter. Donc il y a quelque chose de très fin, je dirais de très humble aussi chez elle. Mais on y reviendra. Ce qui est très intéressant, c'est un ouvrage sur le deuil, puisqu'il est en quelque sorte cristallisé autour de la perte du père. Mais très très vite, elle nous parle de beaucoup d'autres choses. Elle nous parle de toutes petites pertes, de petites morts, mais qui n'en sont pas moins extraordinairement importantes si on les regarde de près. Donc il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'infraordinaire, d'une attention à des petits riens, mais qui sont beaucoup pour le poète. Il y a quelque chose de cet ordre-là, des objets, la montre du père, un puzzle fini avec la mère à l'agonie du père, un petit oiseau mort. Ce sont des moments comme des éclats ou des pépites. Elle va elle-même d'ailleurs parler de l'écriture comme finalement quelque chose qui va faire d'une poussière une perle. Alors on reviendra sur la question de la littérature et de l'inconsolation. Dans un premier temps, elle va parler de la littérature comme remède, mais pour tout de suite en fait se reprendre et dire c'est pas un remède ou un antidote, mais c'est quelque chose qui va garder trace, c'est quelque chose qui va justement faire ce travail de transformation d'une expérience personnelle d'un manque en pouvoir d'affirmation. Et je dirais peut-être pas paradoxalement, parce que c'est souvent le cas, ce n'est pas tant une réflexion sur la mort qu'une réflexion sur la vie. De ce point de vue-là, je dirais qu'elle est très spinoziste, hein, c'est-à-dire philosopher, ben c'est pas philosopher sur la mort, c'est philosopher sur la vie. Et il y a comme ça cette Zoé, hein, sa petite fille là, qui traverse ce texte et qui est une sorte de puissance un peu apollinienne, enfin solaire, qui vient en quelque sorte balancer ce qui peut y avoir de hantise, hein. Elle dit je suis hantée par la pensée de la mort, elle m'accompagne depuis que je suis enfant. Et en même temps il y a cette affirmation de la vie. Donc il y a quelque chose de très intéressant qui renvoie les lecteurs de Dickinson. Moi c'est Dickinson qui m'a fait découvrir Dominique Fortier. Fin des années 80, j'ai découvert l'œuvre d'Emily Dickinson, j'ai vraiment une vraie passion pour cette œuvre. Et puis donc voilà, l'essai, Les villes de papier, ça a été pour moi une vraie découverte avec un texte très 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 sensible. Mais je dirais que c'est trois textes, hein, donc vraiment Les villes de papier, Les ombres blanches et Quand viendra l'aube, forment un tout. C'est cette réflexion sur ce qui nous habite, ce dont on hérite, ce que nous transmettons. Et les pouvoirs de l'art, et les pouvoirs de la fiction. Mais quelque part, ça revient un petit peu aussi à ce que pouvait dire quelqu'un comme Georges Perec à la fin d'Espèce d'espace, c'est garder la trace. Hein. Il y a quelque chose de ce travail-là dans l'écriture.
Juste pour préciser pour les auditeurs, avant de poursuivre avec le prochain ouvrage, on parle d'un essai, Quand viendra l'aube, comme Les villes de papier. Donc,
c'est un essai.
Parfait. Et je termine donc avec la dernière œuvre qu'on va présenter. C'est présenté par Émilie Lapointe, rédactrice en chef de Impact Campus. Crépuscule admirable. Qu'est-ce que c'est donc?
C'est un drôle d'objet littéraire, au sens où on a accès... Bon, déjà, Thomas Mangui ne se passe pas encore de présentation, là. Donc, c'est un professeur au collégial. Il travaille, entre autres, chez Notabene. Il co-dirige une collection d'essais. C'est surtout un poète et un essayiste. Crépuscule admirable. Puis si je me trompe pas, il a fait son parcours à l'Université Laval. Là. Ouais, c'est ça. J'ai pas halluciné ça. Hein, okay. Bon, on, donc voilà. Puis donc Crépuscule admirable, c'est un une espèce de visite dans une partie de sa bibliothèque intérieure. Là. On a accès à certaines œuvres de ses yeux à lui, d'auteurs puis d'autrices qui l'ont marqué, mais dont les œuvres sont traversées par la question de la mort, plus que de celle du deuil. Puis ou dont la mort a fasciné ou questionné l'auteur sur des questions qui lui sont propres. Je me suis posé la question en commençant l'ouvrage en me disant, bon, est-ce que c'est nécessaire de connaître tous les auteurs, les autrices dont il fait mention? Absolument pas. Cela dit, de nom, d'en connaître un ou deux, ça suffit vraiment parce que il est très, très bon pour donner en fait envie de lire l'œuvre, d'orienter peut-être notre manière de lire ces œuvres-là. Après ça, c'est certain que les auteurs, les autrices que je connaissais un peu mieux, comme Marie Huguet ou Marguerite Yourcenar, il fait aussi beaucoup référence à Saint-Denis Garneau. C'est un petit peu sa boucle, en fait. Il commence par ça, puis il termine par ça, par le rapport à l'enfance, par le rapport au commencement. Donc, une façon assez lumineuse, finalement, d'aborder un thème qui semble plutôt lourd de prendre.
Parce que, comme tu l'as dit, c'est particulier, un peu comme œuvre, là, tu me corrigeras, tu l'as lu, oui. Je ne l'ai pas lu, là, rappelons-le. On l'espère. C'est un espèce de recueil sur plusieurs auteurs. C'est nécrologique, un peu, là, comme œuvre. Peux-tu préciser
c'est
un peu?
C'est des nécrologies littéraires. Oui. Donc, c'est de très, très, très courts fragments, 4-5 pages sur une douzaine d'auteurs-autrices. Il commence souvent avec une petite anecdote personnelle, sa rencontre avec l'auteur, avec l'autrice. Parfois, il rentre directement dans l'œuvre. On y voit un petit peu son impression. Là. Son jeu est très, très présent par rapport à ça. Puis on traverse certaines œuvres clés, certaines thématiques, avec inévitablement toujours la mort de l'auteur qui clôt les fragments. Puis il écrit... Bon, au départ, il y a comme une petite note liminaire pour justement expliquer un peu... quel est cet objet littéraire, puis il écrit, puis je trouve que ça résume bien l'ensemble de son œuvre, il écrit « Les 12 œuvres réunies ici, je les connais par cœur. Pas parce que je les ai mémorisées, loin de là, mais parce que je les regarde tout contre moi, où elles me réchauffent quand c'est nécessaire. On a fait du par cœur une sorte d'abomination particulièrement dénoncée dans les écoles. Or, cela n'a rien à voir avec une simple récitation machinale. Son véritable pouvoir repose sur l'intimité qui l'allume. On s'assimile une pensée dont les étincelles circulent, alors en nous. Une telle intimité est si forte qu'elle ne s'use pas. En fait, elle se renouvelle au gré des circonstances qui nous ramènent à elle. J'ai cru que les rayonnements de ces écrivains et de leurs morts pourraient, en définitive, être dirigés comme s'il s'agissait, quoi d'autre sinon, de signaux pour ceux qui doivent encore décoder ce qui tient en vie.
Super. Superbe, merci donc de ces présentations. Pour lancer peut-être une petite discussion générale d'une dizaine de minutes avant qu'on s'attaque vraiment au thème du deuil, ce qu'on va faire durant la deuxième moitié de cette table littéraire, je me dirigerai vers vous, Michel. Vous avez lu les trois œuvres récentes et de mon impression première à vous entendre, c'est quand même des formats différents. Alors, évidemment, on a une espèce de récit presque autobiographique, des essais, des nécrologies littéraires, comme l'a si bien dit Amy. Pour exprimer le deuil de votre vision personnelle, qu'est-ce qui le faisait mieux et pourquoi, lequel se prêtait le mieux à exprimer le deuil, selon vous?
J'aurais pas de premier choix. J'ai trouvé que c'était trois façons très différentes, mais à plusieurs points très semblables aussi. Il y a plusieurs images. Je sais pas si vous avez remarqué des images qui reviennent des fois d'un texte à l'autre. Je pense, tu parlais de Thierry, de la fille de Dominique Fortier tout à l'heure, une jeune fille. Donc, à un moment donné, elle est comparée à une sorte de plante là, qui grandit, puis ses racines. Et on retrouve la même image dans un autre texte, mais là, les racines sont celles du cancer dans le cerveau. Donc, c'est il y a plusieurs. Tu parlais de Amy, tu parlais de dans le texte de Thomas des fameuses lanternes. Mais on retrouve la même image un peu dans le texte de Dominique Fortier. Donc, on voit qu'il y a beaucoup naturellement, il y a beaucoup de questions dans les trois textes du crépuscule, hein, le crépuscule de jour et le crépuscule de nuit. Donc, la lumière juste avant et après la nuit. Donc, on voit quand même il y a un réseau de sens qui s'élabore et des images communes qui se partagent. Et je trouve ça fascinant parce que c'est trois textes qui paraissent presque en même temps. Et puis, je trouve ça drôle quand même de voir ou de remarquer certaines similitudes.
Un commentaire très, très bref. Crépuscule et aube. Ce qui est très intéressant, c'est la question d'être hanté par. Alors, il y a un petit essai, si les auditeurs sont intéressés, d'une auteure qui s'appelle, une autrice, Ryoko Sekiguchi, qui a écrit un petit texte qui s'appelle Nagori. Et Nagori, c'est un concept japonais, c'est quand ce qui n'est plus tout à fait rencontre ce qui n'est pas encore. Et je crois que ces trois textes-là, il y a quelque chose à voir. Comment on est encore hanté par ce qui n'est plus, et déjà on appréhende ce qui n'est pas encore. Et il y a quelque chose de très subtil, de très labile, mais en même temps de très très fort, je crois, qui insiste autour de cette question de la mort et du deuil. Comment on est habité par des choses qui ne sont plus ou par des choses que l'on ne connaît pas. D'ailleurs, c'est ce que Dominique Fortier dit, c'est cette sorte de, quand elle parle de la couleur bleue, ce rapport au manque. Et en même temps, ces territoires qui sont ceux de la fiction, qu'on peut habiter, inventer, et qui sont aussi une forme peut-être de rempart, de refuge. Dominique Fortier parle de cabane, on pense aussi à cabane de, par exemple, de Marielle Massé. Il y a quelque chose d'intéressant là, dans cette sorte de cette figure, hein, de la hantise, être hanté et appréhendé, et en même temps comment, dans une certaine mesure, la littérature peut accompagner. Alors, on reviendra sur cette question de remède ou pas, mais effectivement, il y a quelque chose qui se cristallise dans ces textes-là.
Assurer une présence par la littérature, hein, t'sais, on le voit avec... tu parlais de bibliothèque mentale tout à l'heure, c'est ça. Donc, c'est pour Thomas, c'était ces textes-là qui... ces agencements de mots-là qui, finalement, ne le quittent jamais une fois qu'il les a lus, qui participent à sa personnalité. Puis on le voit aussi, ben c'est ça, on le voit beaucoup avec Dominique Fortier aussi, hein, c'est l'écriture de comme sous forme de libération, se libérer. On voit à la fin il y a un passage magnifique où on la voit, elle raconte se promener la nuit et là avoir un moment de fulgurance incroyable, comme si donc finalement c'est des textes qui parlent moins de la mort que de célébrer la vie. Hein, se libérer de ses angoisses, c'est ce que Thomas notait à un moment donné, je pense, à propos de Marie Huguet. Se libérer de ses angoisses, puis pour en arriver à célébrer les choses, des valeurs plus simples, donc l'amour, la vie.
Et comment ces auteurs sont habités par d'autres auteurs, c'est ce que tu dis aussi. Parce que, moi, juste un petit détail, c'est le texte qu'elle lit à l'inhumation, enfin, aux cendres de son père, à Sainte-Foy, et... là, son père aimait Ronsard, et elle va lire un poème de Ronsard qui est très très connu, mais c'est la fin, c'est « Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ». Quelque part encore, une invitation à profiter, à apprécier. Et donc, il y a quelque chose de très très intéressant, comment aussi ils sont habités par ces auteurs qui les nourrissent, qui les relance, qui sont des médiations vers des façons en fait d'échafauder quelque chose, comme elle dit, après la perte.
Donc au final, trois textes qui dans de formes très différentes, mais qui finalement véhiculent souvent un message commun.
Ça semble effectivement similaire. Il y a une interrogation que j'ai, parce que évidemment le deuil, notre but c'est d'encourager les étudiants, les gens qui nous écoutent à lire ces œuvres qui semblent absolument magnifiques. Le deuil, c'est un sujet qui affecte une grande majorité de gens, de près ou de loin, beaucoup de gens qui nous écoutent. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui peut venir les chercher de façon positive, ou qui peut peut-être... c'est quelqu'un qui vit présentement un deuil là, et qui est peut-être inquiet, j'ai pas nécessairement envie de retomber là-dedans. Qu'est-ce que vous aurez à lui dire? Est-ce que c'est l'inverse de ses appréhensions, ou il y a peut-être quelque chose qui peut être troublant et dérangeant si on vit présentement ces émotions-là?
Ben, peut-être que je vais répondre d'une façon indirecte, puis vous me corrigerez si j'ai tort, là. Mais je pense avoir... tout à l'heure, je parlais d'un réseau de sens là, qui traverse les trois œuvres. Je pense qu'il y a une image aussi qui revient à deux reprises sur le fait de laisser dans le texte de l'espace au lecteur, pour que le lecteur puisse s'immerger dans ce texte-là et lui donner son propre... soit se laisser toucher par le texte, mais aussi y apporter un autre degré de sens. Donc, je trouvais ça intéressant de la part de... Je sais que Dominique Forti l'a écrit clairement. La deuxième référence, ça m'échappe un peu. Je ne sais plus si c'est dans Thomas ou... mais on retrouve la même image ailleurs. Donc, c'est vraiment... c'est sûr que, n'ayant pas vécu moi-même un des deuils aussi importants, ça serait difficile pour moi de répondre clairement. Mais je pense quand même que il y a beaucoup, beaucoup d'espoir qui naît de la lecture de ces textes-là. Donc, on est touché, même troublé, mais en même temps, je trouve qu'on est capable rapidement de dépasser ça pour aller vers autre chose. On finit par dire que finalement, ces textes-là ne parlent pas de la mort, mais célèbrent la vie. Donc, je pense que c'est trois textes magnifiques. Je tiens à le réitérer.
Thierry, est-ce que vous auriez une opinion similaire là-dessus?
De mon côté, Thomas Mengis, j'ai l'impression qu'il aborde jamais frontalement le deuil parce que, bon, on a beau entretenir des relations très, très personnelles avec certains auteurs, certaines autrices, les questions de deuil sont pas abordées de front. Puis je pense que c'est peut-être une façon plus délicate d'aborder la question parce qu'on est plus dans la fragmentation de la question du deuil, de la mort, de la vie. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y a cet aspect cyclique qui, bon, après ça, moi non plus, j'ai pas vécu d'énormes deuils encore. Mais je pense que c'est une bonne façon de réparer ou de venir nourrir certaines questions plus existentielles qui viennent forcément qu'on est confronté à ce genre d'événement-là. Puis aussi, dans le livre de Thomas Mengis, cette idée-là de... Bon, entre autres avec Marie-Guy, avec Marguerite Yourcenar, d'exaltation, d'envie de vivre, puis de faire des choses, puis d'en profiter. Puis je pense que comme relativement jeune lectrice, c'est le genre de texte qui est un bon rappel.
Peut-être pour terminer rapidement, Thierry.
Bon, je crois que les textes-là dont on parle nous montrent bien que cette littérature, c'est une littérature de médiation. On peut parler de la mort de l'autre pour parler de mort qui ne touche davantage, mais par pudeur ou par projet, on ne le fait pas. J'imagine qu'on va aborder un petit peu plus cette question aussi du rôle de la littérature. Ça fait quelques décennies maintenant qu'on a un petit peu donné à la littérature un rôle réparateur qu'elle n'avait pas. Alexandre Geffin, là, dans un essai de synthèse, sans prendre trop parti par ailleurs, fait une sorte d'état des lieux et montre comment, depuis effectivement, on va dire, une trentaine d'années, il y a cette sorte d'injonction aussi, d'une sorte d'utilité de la littérature, en tout cas d'une forme de mise au service de la littérature à des fins réparatrices, qu'il s'agisse de la nature, qu'il s'agisse effectivement du rapport à toutes sortes de pertes. Et ça, c'est à comprendre dans un contexte aussi plus général où on vit selon une sorte d'injonction à aller bien. Il faut aller bien, il faut être heureux, il faut toujours aller mieux. Alors, et quelque part, je pense que la question du deuil, elle est à penser. On y reviendra tout à l'heure. Il y a des gens qui disent, moi, je veux absolument pas être consolé, je veux pas du tout faire mon deuil. On parle, la psychologie s'est beaucoup emparée de cela. Il y a un travail du deuil. Il y aurait un travail du deuil et il faudrait en guérir, il faudrait oublier, passer à autre chose. Et certains auteurs disent, comme Philippe Forêt et d'autres disent, non, c'est au contraire une sorte de blessure qu'il faut garder ouverte, il faut garder cette mémoire, donc il y a débat. Hein, on est dans un contexte général d'injonction au bonheur et au bien-être, et puis un certain rapport à la douleur et à la perte. Et la littérature, certains auteurs, eh bien, sont là aussi pour travailler ce côté brutal, difficile. On cite souvent la lettre de Kafka à Oscar Pollack, hein, qui dit un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous, mais il doit nous mordre, nous piquer. C'est très très souvent cité. C'est un enjeu. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de vrai ou de faux. Mais effectivement, il y a débat.
Alors, c'était que la première moitié de cette table littéraire. On va prendre une courte pause, le temps de laisser nos panélistes respirer un peu. Et après, on va attaquer le dur thème du deuil et les notions que la littérature peut engendrer dans ces discussions-là. Donc, autour, évidemment, des trois œuvres qui ont été lues par nos panélistes. On vous revient dans quelques minutes.
On est maniaque de cheese depuis 25 ans.
She's a maniac, maniac. 94.3.
Vous me connaissez sur les ondes de Chiz pour mon esprit d'analyse. Un commentateur d'actualité politique.
Ça reste que la possibilité qu'il soit minoritaire sous gouvernement reste très, très probable, en fait.
Mais là, Félix Bouffard, le journaliste, est pas mal écœuré. C'est pourquoi je reviens cette année avec une autre formule. Une formule qui met en valeur des chroniqueurs de tout horizon.
Hey, c'est quand tu commences à parler de moi?
Et je serai accompagné cette fois de Virginie, que j'ai été capable de sortir de son lab. C'est les scientifiques, faut pas trop leur en demander.
Regarde Science Vacances qui parle, toi. En tout cas, les lundis matins de 9 à 10, il n'y en aura pas de facile.
Il n'y en aura pas de facile à Chiz 94.3.
Si vous êtes comme moi, vous aimez la navigation durant l'été. Mais trop souvent, la consommation d'alcool peut transformer ce plaisir en tragédie. Près de la moitié des décès lors de la navigation de plaisance au Canada impliquent de l'alcool. La navigation avec facultés affaiblies, c'est de la conduite avec facultés affaiblies. Si vous voyez un plaisancier aux facultés potentiellement affaiblies, n'hésitez pas à contacter le 911. Ensemble, nous pouvons rendre nos cours d'eau et nos routes plus sécuritaires. Pour en savoir plus sur la navigation avec facultés affaiblies, visitez mad.ca.
On esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit écho. Plongeons le monde au black. Hey yo! Appelle-moi la Lyonne, c'est chaud.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Tu dévores les journaux? Tu te régales de politique? Tu salives lorsqu'on te parle d'actualité? Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance qu'on vous accueille chaque lundi à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 pour entendre les autrices et les auteurs de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matins.
OK, attention. 1, 2, 3.
Cheese!
11h32, vous écoutez la table ronde littéraire, première édition de la table ronde littéraire de la Coop Zone. Et nous sommes bien installés directement dans la Coop Zone. Belle vue sur l'université, la belle journée qui se déroule. Vous êtes les bienvenus à venir nous voir, d'ailleurs, nous faire un petit coucou. Ça fait du bien, je vous le dis, comme animateur de Chiz, de ne pas être enfermé dans le sous-sol habituel de nos studios. Je suis accompagné de Michel Germain, Émile Lapointe et Thierry Belguic, professeur à l'Université Laval, pour cette première édition qui se déroule sous le thème du deuil, précisément. C'est quand même un thème lourd, important. Pourquoi s'attaquer immédiatement à quelque chose comme ça, Michel, pour la première édition de la table ronde littéraire?
Ben, je te dirais que le thème est en fait est venu par la suite. Je sais pas si c'est inconscient là, mais avec Émy, on regardait un peu les nouveautés. Puis après avoir fait la sélection des trois textes, c'est là que le thème est apparu. Mais en fait, moi, ça m'amène à des questions. C'est des questions graves pour une journée aussi ensoleillée. Là. Mais ça me ramène vraiment à des questions primordiales pour la littérature. Hein. Qu'est-ce que peut la littérature, ou même à quoi sert la littérature? Dans l'histoire, il y a Thierry serait bien meilleur que moi pour résumer tout ça, mais il y a eu différents types de pensées. Hein. La littérature, à la limite, même, il y a eu une période où on disait que la littérature ne servait à rien, ne devait servir à rien pour le simple plaisir de lire. Certains se sont éloignés du langage pour justement éviter les effets de réel. Puis je vois Kevin dehors. C'est ça. Donc ça me ramène à la question. C'est une question en fait que j'aimerais poser à Thierry parce que je remarque. Je ne sais pas si c'est un effet, une illusion, mais le corpus d'aujourd'hui aurait pu être facilement doublé et même triplé. Il y a plusieurs textes qui sont parus récemment qui portent sur ces questions-là. Je pense entre autres à Murakami qui a fait paraître un texte récemment, un court texte sur abandonner. Ça s'appelle Abandonner son chat. C'est très lumineux. C'était sur le deuil de son père. Je vous le conseille également. Il y avait aussi un très 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 beau texte de l'auteur français Thierry Consigny que j'ai lu aussi, qui s'appelle Léopoldine. Consigny, en fait, parle du fait que lui-même a perdu sa fille à 4 ans et se sert, en fait, du prétexte, en fait, de la mort de la fille aînée de Victor Hugo pour élaborer sur le sujet et de voir l'impact que ça a eu sur sa vie à Victor Hugo et l'impact que ça va avoir sur son écriture. Impact assez marquant pour que ça amène jusqu'à l'écriture des Misérables. Puis, mais ça, c'est juste deux exemples pris, pris rapidement comme ça. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que notre société est plus sensible à ces questions-là qu'avant, étant donné que tu es un spécialiste du 18e siècle. Je sais que ces questions-là, naturellement, étaient déjà évoquées. Mais est-ce qu'on voit une recrudescence de cette sensibilité-là? Est-ce qu'on en parle plus qu'avant?
Oui, il y a Dominique Viard, qui est un critique littéraire, un prof d'université en France, avait réfléchi il y a quelques années à ce phénomène là qui remonte peut-être à trois décennies, où il a véritablement vu une sorte de transformation un peu de discours autobiographique, autofictionnel, qui va vers ce qu'il appelle de façon générique les récits de filiation, qui sont faits d'enquêtes, d'enquête généalogique, de réflexion aussi. Alors, bien sûr, les héritiers de la Shoah ou d'autres expériences traumatiques, mais aussi d'histoire familiale. Donc, il y a effectivement un contexte depuis une trentaine d'années où il y a une interrogation certainement plus vive, plus dense, avec aussi une grande densité de publications. Par exemple, chaque rentrée littéraire en France, on va compter à peu près entre 500 et 600 nouveaux titres. Donc, c'est vraiment considérable aussi en termes de production. Il est clair aussi que la pandémie a vraiment cristallisé ce type d'inquiétude. D'abord parce que des gens un peu partout dans le monde et ici aussi ont vécu des pertes et des deuils difficiles ou des deuils impossibles parce qu'il y a justement impossibilité d'accéder. Au tout début, hein, lorsqu'on était quand même dans une panique quasi généralisée, il n'y avait plus d'enterrement. On a eu ces traumatismes-là et on s'est rendu compte de l'importance des rituels, on s'est rendu compte de l'importance des récits. Il y a aussi Delphine Horvilleur qui est rabbin en France et qui a écrit justement un texte très intéressant, « Vivre avec nos morts », où elle parle de l'importance dans le travail du deuil, dans son accompagnement des personnes qui vivent des deuils, des récits, comment aussi le récit donne sens, qu'il console ou pas, ça c'est une autre question, mais accompagne, c'est-à-dire donne ce sentiment qu'on fait partie d'une communauté d'expérience, puisque personne n'y échappe, la sienne et celle des personnes que l'on aime.
Vous avez parlé un peu de la consolation et c'est là que je veux qu'on se dirige pour commencer vraiment cette discussion sur le thème du deuil, le rapport de l'écriture avec la consolation. Et je pense que de près ou de loin, n'importe qui a été quelqu'un qui a aimé lire dans sa vie, ne serait-ce que comme échappatoire, a déjà été consolé par la lecture. On est un peu dans une autre facette dans les ouvrages dont vous parlez. On confronte directement le deuil, mais y a-t-il quand même une espèce de rapport avec la consolation? Parce que vous l'avez dit, ça reste lumineux malgré un thème très lourd, là.
Ben, je parlerai en fait du livre qui m'intéresse le plus aujourd'hui. En fait, c'était celui de Marianne, dans la lumière de notre ignorance. Donc, c'est sûr que le côté de consolation est omniprésent parce que c'est la consolation d'un avenir qui n'aura pas lieu. Donc, on voit aussi comment Simon Roy est affecté par la maladie. Hein. C'est quand même assez étonnant que Marianne se livre autant d'intimité, hein, parce que on voit le côté très négatif de la maladie, hein, la maladie qui affecte son caractère. Donc, il va y avoir beaucoup d'allusions à des accès de paranoïa. Et ça a dû être très difficile à gérer émotionnellement. Puis, on sent aussi dans le texte que Marianne, à certains moments, indique qu'elle se sert de la littérature aussi pour, comment dire, s'imaginer un avenir avec Simon. Donc, il y a même un endroit où c'est décrit comme s'ils allaient, par exemple, avoir un enfant ensemble. Donc, il y a un côté de consolation qui se construit, qui se fabrique. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça aussi très intéressant. Je pouvais pas m'empêcher de penser à la rumeur, je sais pas si c'est avéré, mais que à l'époque où Simone de Beauvoir écrivait ses mémoires, l'entourage de Jean-Paul Sartre était très inquiété par le fait de savoir que Sartre allait être décrit dans des moments moins glorieux. Et là, tout d'un coup, Marianne, elle, s'ouvre complètement là-dessus. Et j'ai trouvé ça très touchant. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que le pouvoir de la littérature, ça, c'est ça. Sinon, c'était une autre des grandes questions. À quoi sert la littérature? Est-ce que ça sert à consoler? En tout cas, du moins dans le cas de Marianne, c'est sûr que c'est un incontournable.
Est-ce qu'il s'agit plus d'une consolation personnelle ou d'une consolation commune avec le lecteur et l'écrivain?
Ben, je pense que c'est quand même assez commun parce que c'est sûr que ça les affecte pas seulement les deux. Donc, Simon Roy a deux enfants. On sent aussi que, au niveau de ses amitiés, on sent que lui-même essaie de rassurer, essaie de consoler ses proches. Hein. Il va dire à plusieurs reprises, même en entrevue, qu'il veut pas que les gens, il veut que les gens le regrettent. Le regrette au sens où il veut vivre la meilleure vie possible et cultiver ses amitiés jusqu'à la fin pour qu'à la fin, on en vienne à le regretter. Donc, à la limite, il y a un peu des deux. C'est lui aussi qui va en venir à essayer de consoler son entourage.
Pour vous, Thierry, le rapport de l'écriture avec la consolation?
Alors, la consolation, d'abord, ça a une longue histoire. Si on lit Sénèque, ses lettres à Lucilius, par exemple, dans la pensée stoïcienne, la consolation, c'est encore une injonction, c'est-à-dire cette sorte de nécessité de garder la maîtrise, de garder le contrôle. Puis on va dire à peu près au tournant 18e et 19e siècle, avec une nouvelle sensibilité et l'émergence de l'individualité, là, il y a quelque chose là, qui va prendre forme de façon plus individuée, avec des formes de sensibilité très, très, très variées. Et depuis lors, hein, avec Rousseau comme modèle, eh bien, on va avoir toutes sortes d'incarnations. Et depuis, effectivement, on a véritablement cette appréhension, alors avec aussi les moments auquel Michel faisait allusion, c'est-à-dire aussi au 19e siècle, les symbolistes ou d'autres, ou le Parnasse, qui est un refus absolu de toute captation utilitariste de la littérature. Et puis en même temps, d'autres qui disent non, elle nous accompagne, elle peut effectivement apporter de la douceur, elle peut penser nos plaies. Enfin, c'est aussi des choses que l'on peut lire dans la pensée, dans la littérature romantique et après. Donc, il y a ça cohabite. Mais je crois que la vraie question, c'est justement cette question de la cohabitation. Alors peut-être y revenir après, mais c'est la question de la cohabitation avec la mort. Vous posiez tout à l'heure cette question-là. Pourquoi? C'est parce que on sort en quelque sorte là d'une longue période hygiéniste, où on a relégué très loin les cimetières. Moi, j'ai encore souvenir, dans mon enfance en Bretagne, dans les années 70, de veillée du mort, où le mort était dans une pièce de la maison, un peu à la Maupassant, quelque part. Alors que là, il y a quelque chose de très hygiéniste, on le voit plus, on emballe, c'est parti, c'est brûlé. Il n'y a plus du tout cette sorte de familiarité. Et je crois qu'il y a un souci des gens aujourd'hui à retisser ce type de lien, de se réapproprier en fait la mort, qui a été totalement exilée.
Vous parliez justement de la question de la familiarité avec les morts. Puis tout à l'heure, vous parliez de la pandémie. Puis je pensais à une espèce de rapport à, à la gestion du corps, de ce qui reste de l'enveloppe charnelle après le décès. Puis je pense qu'on a été, justement, tout à l'heure, vous parliez de bon l'absence de funérailles, puis de ce qui reste comme rite. Puis on a pu, bon, cette tendance à veiller. Puis je pensais aux épisodes dans les CHSLD où on n'arrivait pas dans les dernières années, par exemple, à faire sortir les corps de l'établissement. Puis bon, les préposés, on leur demandait de fermer la porte, de laisser le corps là, puis de continuer leur journée de travail, puis de continuer comme si de rien n'était. Puis la session dernière, j'avais un cours de droit de la personne physique, là. Puis on lisait un jugement dans lequel une dame demandait de faire en fait sortir le corps de bon, ce qui reste du corps de son mari qui était dans une fosse commune. Ce à quoi le juge en fait a refusé sa demande en lui disant ce serait troubler le repos de trop de gens. Puis ça m'a fait questionner par rapport à, puis en relisant entre autres le livre de Marianne, cette question-là de est-ce que ce qu'on fait, bon, pour les morts, on le fait pour nous, pour ceux qui restent ou pour ceux qui sont partis? Puis en écoutant, je suis quand même beaucoup l'histoire de Simon Roy, parce que c'est un auteur qui m'a marqué beaucoup. Puis l'absurdité de toute cette situation-là me terrorise. Puis de voir que lui, il a à la fois un pied dans les deux mondes, au sens où il est le futur disparu, mais il est encore là comme vivant pour dire comment il veut qu'on pense sa mort. Je trouve que c'est trois œuvres qui font le
Tu me donnes la transition facile, Amy. Tu parles de comment il voudrait qu'on se rappelle de lui après la mort. C'est le prochain thème que je veux qu'on aborde, la question du souvenir. Et je vais me diriger directement vers toi, Amy, parce que, à mon sens, comme observateur, en écoutant vos discussions, ton ouvrage frappe directement dans la question du souvenir, parce que c'est celui qui ne parle pas d'un deuil plus personnel, comme les œuvres dont nous parlent Thierry et Michel, mais plutôt d'un deuil envers des auteurs qu'il a admirés, qu'il apprécie, et dont, justement, il tient à maintenir le souvenir en vie. Est-ce que c'est une bonne lecture que je fais de cette œuvre-là?
C'est une bonne lecture pour quelqu'un qui a pas lu le livre,
oui,
dans le
merci,
fond.
Oui, merci,
là.
Merci.
puis j'en profite pour bifurquer, pour faire une petite publicité pour notre... parce que tu sais, je suis rédactrice en chef d'Impact Campus.
Quoi?
Puis la semaine prochaine sort notre magazine sur l'héritage, en fait. C'est le thème qu'on a choisi d'aborder. Puis il est question, entre autres, on a un gros dossier sur la question, on a entre autres sur Jeanne Lapointe, qui est pas encore un nom de pavillon, mais qui est notre objectif. Puis sur la question de la littérature des femmes, la transmission, de la matérialité, comment se transmet la littérature de l'intime. C'était ma petite publicité, donc elle sera en kiosque vendredi prochain. C'est un très beau numéro, empreint de nostalgie, mais très lumineux, je l'espère aussi. Pour ce qui est de la question
du souvenir,
de l'héritage à proprement parler dans l'œuvre de Thomas Mengi, je pense que c'est une question qui, moi, m'a touchée personnellement, parce que c'est quelque chose que je remarque beaucoup quand je lis. Qu'est-ce que les auteurs que je lis ont comme marque littéraire, qu'est-ce qu'ils portent? Parce que forcément, ça les inscrit dans un dialogue, dans une filiation. Tantôt, on parlait de ça. C'est souvent le cas en littérature des femmes, mais pas que. Puis je trouve que ça oriente les interprétations du livre selon les auteurs qu'on peut citer, que ce soit en citation, en exergue, que ce soit à même le texte, que ce soit des références moins explicites. Puis tantôt, Michel, tu parlais justement de Thomas qui parlait des auteurs qui l'habitent. Puis je pense qu'on peut voir dans l'œuvre littéraire d'un auteur, d'une autrice, un avant puis un après certaines lectures qui marquent au-delà de la référence.
Alors oui, moi je tiens à dire un mot sur le récit, en fait. C'est un essai, mais récit de Dominique Fortier. Il y a la mort du père, mais il y a infiniment plus. C'est-à-dire, c'est une réflexion sur la perte, ce qu'il est possible aussi d'échafauder après la perte, d'affirmation de la vie. Et je crois que c'est très très important aussi de voir ce qu'il y a comme circulation et porosité, hein. C'est-à-dire que le souvenir, c'est aussi le souvenir de choses que l'on n'a pas forcément vécues. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus large de ce que l'on de ce que l'on transmet. Et par exemple, Dominique Fortier nous raconte comment elle pleure à la mort d'un personnage d'une série, la reine de Nashville, et elle dit « Je ne sais pas encore pourquoi, il me faut absolument raconter tout cela, les blessures anciennes et les nouvelles, comme si dans l'écriture résidait non pas le remède ou l'antidote, mais peut-être la trace de blessures plus vieilles encore et dont le souvenir aurait cessé de faire souffrir, comme si elle recelait le secret permettant de les transformer. » De la même façon qu'un grain de sable dans une coquille d'huître finit par devenir une perle. Et parfois, elle se dit oh, « je ne parle plus de mon père ». Mais si elle en parle, et ce qu'elle dit, c'est parler aussi de Faulkner, parler d'Emily Dickinson, parler d'événements ou de petits faits, c'est encore et toujours parler du père, de la même façon que parler du père, c'est parler de la poésie, c'est parler de la littérature.
On va terminer parce que le temps file avec le troisième thème, mais il y a quand même une similarité. Je serais curieux de t'entendre là-dessus, Michel, dans ta sélection de sous-thèmes, parce que c'est toi qui a établi ça, de passer de la question du souvenir à la notion d'héritage, parce que c'est deux thèmes qui se rejoignent et qui semblent très similaires, mais il y a quand même une distinction claire à faire entre les deux. Quelle est cette distinction que tu voulais établir dans les œuvres que vous nous présentez aujourd'hui?
Ben, l'héritage me semblait extrêmement important parce que, justement, le deuil, on laisse derrière. T'sais, il y avait une très belle réflexion sur, je pense même que ça revient dans deux textes, la distinction entre souffrance et douleur. La douleur étant une douleur physique, à la limite contrôlable, tandis que la souffrance est est quelque chose qui va rester. Donc, entre autres, dans le texte de Marianne, on a une réflexion très intense sur le fait que Simon va finir par nous quitter, mais que derrière ça, elle reste habitée par ça pour le reste de sa vie. Elle est quand même assez jeune. Donc, c'est toute cette question-là de ce qui est laissé après. Et je trouve ça touchant aussi de voir. On n'a pas eu le temps de parler beaucoup des œuvres de Simon Roy, mais c'est de voir que lui, il va laisser ça derrière lui. C'est une œuvre imprimée, donc ça fait partie du legs.
Ça vient avec l'expression bien connue, là, les paroles s'envolent, les écrits restent.
Tout à fait.
La littérature a toujours été liée à l'héritage, ne serait-ce que culturel, de notre société depuis toujours. Là.
Tout à fait.
Il y aurait une distinction importante à faire entre l'héritage et le legs. Le legs, c'est en quelque sorte un héritage inventorié et destiné, fléché. Alors que l'héritage, c'est pas du tout le cas. On cite souvent le vers de René Char dans les fragments d'hypnose quand il dit « Nous sommes des héritiers sans testament », hein, qui laisse ouvert justement cette question de l'héritage. Il peut être dit, non dit, confus, et puis il pose la question, c'est ce que fait Hannah Arendt quand elle reprend ce vers de René Char, c'est qu'est-ce que l'on fait des héritages qu'on reçoit sans le vouloir ou sans l'avoir choisi, et la possibilité aussi de faire quelque chose de cet héritage. D'où la question de la transmission qui ouvre la possibilité de transformer, de filtrer, de conserver ou pas, ou d'inventer, ou de faire une passe, mais cette capacité d'agir aussi que nous avons. Donc l'héritage n'est pas quelque chose comme à penser dans une sorte de pâtir, hein, mais dans la possibilité d'inventer, la capacité que nous avons de changer les choses. D'où l'importance aussi, dans les questionnements qu'évoquait, je pense que c'est beaucoup dans la pensée de Michel, c'est que cet héritage, il se pose bien sûr familialement, mais il se pose sur l'état du monde, l'état de la nature, la capacité d'agir individuelle ou collective que nous avons. Alors ça, je crois, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très, très important qui se joue aujourd'hui à l'ère de l'anthropocène, etc., etc. C'est en parfaite cohérence.
Tout à fait.
Encore une fois, je peux pas m'empêcher de revenir vers ton ouvrage, Amy. C'est une nécrologie. C'est littéralement le récit d'héritage d'auteur sur Thomas Mengi. Comment vois-tu quand même la différence? Parce qu'on l'aborde un peu, là, cette différence entre le souvenir et l'héritage. Tu l'en as déjà parlé un peu tantôt. Qu'est-ce qui touche un peu plus ce thème-là de l'héritage dans le récit de Thomas?
Mais je le vois de deux façons. D'une part, de ce que ça... Bon, parce que forcément, quand on écrit un livre, on laisse une trace, on laisse une marque, qui est peut-être pas de l'ordre du legs, qui est probablement plus dans l'ordre de l'héritage. Mais je vois ça d'un côté, d'un point de vue artistique, poétique, au sens où on garde quelque chose de la stylistique de l'auteur, de l'autrice, des thématiques. Puis vient ensuite l'héritage qui est, disons, plus personnel, plus social. Puis je trouve que dans l'œuvre de Thomas Mengi, il y a cette question-là qui est vraiment bien abordée. Fait que oui, je pense que pour les gens qui ont une pratique créatrice, c'est un livre qui est peut-être doublement intéressant, mais au-delà de ça, il y a l'avantage, bon, tantôt, il y avait l'énorme question de que peut la littérature. Puis je pense qu'avec Thomas, il y a cette idée-là de l'apprentissage émotionnel. Je pense qu'on peut se faire inculquer des idées, des valeurs, des façons de voir les choses de façon théorique, mais quand ça passe par la littérature, j'avais une professeure à l'UQAR, Catherine Emmons, qui nous avait dit que la littérature permettait ça, puis l'œuvre de Thomas le fait très bien, c'est que même si les émotions qu'on vit ne sont pas rattachées au réel, l'émotion qu'on vit, elle, est réelle, puis l'apprentissage par les émotions me semble beaucoup plus efficace, beaucoup plus permanente. Puis, en ce sens-là, l'héritage de Thomas est double parce qu'on a d'une part l'héritage que les auteurs ont laissé chez Thomas, mais aussi l'héritage que Thomas nous donne en parlant de ces auteurs-là. Fait qu'on a comme une double lecture des œuvres.
C'est déjà ce qui va amener à la fin de cette première table littéraire de la Coop Zone. Le temps file. Je me rappelle Michel lors de notre première rencontre qui disait, je sais pas si on a assez de contenu pour une heure. Je me suis dit, d'après moi, à vous entendre parler, ça va aller assez rapidement. Je suis content de voir que j'avais raison. Tu vas apprendre que ça m'arrive souvent, Michel. Un plaisir, très honnêtement, de vous entendre. Super intéressant. Si vous avez manqué certains extraits, vous allez pouvoir les retrouver sous forme de podcast sur la page de la table ronde littéraire Coop Zone. Sur le site de Chiz 94.3. Je tiens à remercier tout d'abord les invités de cette première édition. Thierry Béléguic, professeur de littérature à l'Université Laval, ainsi qu'Amélie Lapointe, rédactrice en chef d'Impact Campus, qui est aussi à la maîtrise en littérature. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Et finalement, évidemment, le maître d'orchestre de cette nouvelle émission à Chiz 94.3, qu'on espère revoir bientôt. J'espère que ce n'est pas la seule édition, parce que c'est honnêtement très intéressant et ça permet de découvrir des œuvres qu'on ne connaît peut-être moins et d'ouvrir un peu notre connaissance littéraire. Merci Michel de nous faire
jouer. Merci Thierry d'avoir pris de ton temps. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Merci Amy. Je sais que tu as eu un gros mois de septembre, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui.
Alors, c'est donc ce qui met un terme. Je vous rappelle les œuvres qui ont été présentées. Dans la lumière de notre ignorance de Marianne Marquis-Gravel, Quand viendra l'aube de Dominique Fortier et Crépuscule admirable de Thomas Mengi, tous disponibles, je le suppose, sur les tablettes de la Coop Zone.
Absolument.
Alors, merci à tous d'avoir été là. Dans quelques minutes, vous n'êtes pas débarrassés de moi. C'est Les Affamés qui débutent sur les ondes de Chiz 94.3, votre émission d'information. On se retrouvera, je l'espère, très bientôt pour une prochaine édition de la Table ronde littéraire Coop Zone.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
T'es stagiaire postdoctoral à l'Université Laval? Ta convention collective arrive bientôt à son échéance et doit être négociée avec ton employeur, l'Université Laval. Mobilise-toi et tiens-toi informé. Pose des questions, entre en contact avec ton syndicat pour plus d'informations par courriel step@step.ulaval.ca ou par téléphone au 418-656-5990. Oublie surtout pas de suivre notre page Facebook Step Université Laval ainsi que le site web www.infostep.org. Tous tous ensemble vers la négo.
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis bière et joint. Tiens, joint, prends les clés.
Es-tu fou? Je suis bien que trop stone. Hey, bière!
Ah non, une fois que je prends une puff, je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Et puis deux, trois puffs.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Cheese qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
On est là.